Merci beaucoup à Serge d'avoir mis le langage en état d'émergence. Merci à Thalès, à Pierre, à Marlène, à toute l'équipe pour l'organisation de cette nuit. Je sais qu'on va tous labourer les mêmes questions un peu en tous sens. Ça va être parfois redondant. Je m'attends à beaucoup de répétitions, mais c'est ça qu'il faut pour creuser une question. Alors, liberté, égalité, adelphité. Ce que j'aime bien, c'est justement l'écart qui fait une métaphore, en quelque sorte, qui fait vivre soudain le mot fraternité dans un sens inédit. On aurait pu dire aussi sororité, par exemple, l'état de sœur. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le fait que le troisième terme est toujours le plus incertain, problématique. Je pense à une pièce de théâtre de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, vous savez, qui était reine de Navarre, à Nérac, à Mazères, etc., qui avait écrit beaucoup de choses, l'Heptameron, le miroir de l'âme pécheresse, et aussi une petite nativité où on voit Joseph et Marie en train de courir à Bethléem d'un endroit à l'autre pour chercher un logement. Et ils vont d'abord chez le Seigneur. Et le Seigneur, non, il n'y a pas de place pour des rustres. Enfin bon. Ensuite, ils vont chez des riches, non, il n'y a pas de place pour des pauvres. Et ensuite, la troisième, c'est ça qui est intéressant. C'est qui le troisième? Le troisième, c'est des gens qui sont en train de faire la fête. Et eux, ils sont là avec leur urgence, un accouchement, et ça va gêner la fête. Donc, ils n'ont pas de place chez des gens qui font la fête. Voilà, bon. Alors, je ne sais pas si c'est une figure de la fraternité, ou les riches par rapport à l'égalité, ou les seigneurs par rapport aux libertés. Le philosophe Paul Ricoeur, s'appuyant sur Platon, sur Kant, creuse une sorte de trilogie des passions, les passions du pouvoir, de l'avoir et du valoir, qui sont aussi des passions, on va dire, personnelles, je dirais, des passions individuelles qui concernent l'éthique, mais qui sont aussi des passions politiques. Les passions du pouvoir, c'est les passions politiques, les passions de l'avoir, les passions économiques, et les passions du valoir, les passions de l'honneur, mais aussi de la culture, dit-il. Et alors, je travaillais avec un philosophe israélien qui s'appelle Avishai Margalit, qui a beaucoup travaillé sur l'humiliation, sur ce qu'il appelle les sociétés décentes. Une société décente, c'est une société qui serait le moins humiliante possible. Et en fait, lui aussi, il distinguait trois types de problèmes pour une société. Une société qui donne en quelque sorte des libertés fondamentales et qui permettent en quelque sorte d'être des sociétés bridées, des sociétés les moins violentes possibles. Des sociétés qui seraient les moins injustes possibles, donc des sociétés qui mettraient en avant la valeur d'égalité. Et puis justement, des sociétés qui seraient les moins humiliantes possibles. Et c'est peut-être ce que j'appellerais des sociétés fraternelles. On pourrait aussi, toujours dans ces mots d'introduction, proposer, comme il y a eu une statue de la liberté, je ne sais pas à qui nous proposerions, à quel pays il faudrait dédier une statue de l'égalité et une statue de la fraternité. Ce serait un projet encore complètement ouvert. Je vais faire une petite intervention maintenant sur l'éthique de la fraternité. Et au milieu de la nuit, plus tard, vers 1h30, je ne sais pas quand, je ferai une deuxième petite intervention plutôt sur une politique de la fraternité, avec justement cette idée que les passions sont à la fois des passions du cœur et en même temps des passions politiques qui organisent des institutions entières. Je m'appuie aussi sur l'idée d'Augustin que les confessions, c'est à la première personne du singulier, « je », mais la cité de Dieu, c'est à la première personne du pluriel, « nous ». Et c'est ça qui m'intéressera, c'est les caractères aussi indissociables des deux. Alors, je propose quelques mots d'une éthique de la fraternité ou de la delphité. Et cette éthique, je vais l'appuyer sur une biblique, dans un sens un peu littéraire du texte biblique, mais aussi sur une tragique, parce que je m'appuierai aussi sur la tragédie grecque. D'abord, la Bible hébraïque raconte la fraternité comme une sorte de remontée et d'élargissement généalogique de patriarches, vers des archipatriarches, on a Jacob, puis on remonte vers Isaac, puis on remonte vers Abraham, vers Noé, vers Adam. finalement, Adam est la dernière figure. Dans l'histoire, dans l'archéologie du texte biblique, Adam est une des figures les plus tardives. On commence par Jacob, puis Isaac, Abraham, on remonte peu à peu. Et donc, cette remontée patriarcale, on va dire, ou généalogique, se fait contre la logique du petit clan, de la petite tribu. Si vous voulez, là, on a une conception de la fraternité généalogique dans laquelle on est tous descendants, et finalement, on est tous descendants d'Adam. En même temps, dès Caïn et Abel, on a des frères ennemis à mort. On a Jacob et Ésaü, on a Joseph et ses frères, on a, comme d'ailleurs, comme dans les tragédies grecques, où il y a des terribles drames familiaux, fraternels, entre le frère, la sœur, etc. Bon. On a aussi, d'ailleurs, dans l'Évangile, le fils aîné et le fils prodigue, le frère, enfin les deux frères. Et bon, l'idée d'une jalousie fraternelle, si vous voulez, elle va avec la fraternité. On ne peut pas penser la fraternité sans penser la jalousie, c'est-à-dire la comparaison, l'humiliation, la confrontation. Et je pense à une phrase de Pierre Bayle, on n'est pas loin de Bayle ici, au Carla Bayle, qui disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi plutôt que de se procurer un bien qui tournerait à l'avantage de son ennemi. » En fait, ça, c'est le propre du dépit, de la jalousie. Préfère se faire du mal. Voilà. On préfère détruire. On préfère détruire le bien. Si l'autre en a plus, je préfère le détruire complètement. Bref, on a donc ici un premier modèle d'universalisation de la fraternité sur un modèle, je dirais, archi-tribal à partir d'un patriarche commun. Deuxième figure biblique intéressante, je tire ça de travail de Thomas Remer, qui était un ami qui maintenant est professeur au Collège de France, professeur d'Ancien Testament, et il raconte un autre récit qui est le récit du frère électif. On va aller chercher son frère ailleurs. Tiens, on quitte son pays, on quitte sa famille, on quitte ses parents, etc. On quitte ses racines, on s'en fiche des racines. Et on va ailleurs nouer des nouveaux liens d'une fraternité choisie. Donc là, c'est des figures d'émancipation, on va dire, de liberté. Et donc, on a une figure de fraternité élective, constitution d'une communauté libre, une communauté volontaire. On se sépare pour aller se joindre à d'autres. La théologie ici serait une théologie de l'alliance. Et c'est une figure très intéressante en philosophie politique. Toute la philosophie politique moderne, depuis Calvin, Hobbes, Rousseau, etc., sont des philosophies de l'alliance. On se sépare pour se relier à nouveau, librement. Donc on rompt, il y a une rupture émancipatrice pour une nouvelle fidélité, pour une nouvelle solidarité. Et donc, on va choisir ses proches, d'une certaine manière. Et du coup, il va y avoir des non-élus, il va y avoir des exclus, il va y avoir des non-choisis. Et donc, de nouveau, c'est un chemin vers la jalousie. Tous les chemins mènent à la jalousie, si vous voulez, avec la fraternité. Bon. Là, on a une universalité de type élective. Chacune de ces deux figures, vous le voyez, a des effets pervers terrifiants. La logique généalogique de la tribu peut conduire au rejet de ceux qui ne sont pas de ma tribu, donc l'étranger. La logique élective du pacte peut aussi dire on est solidaire dans le pacte, mais uniquement avec ceux qui sont choisis. Là, on crée une sorte de société choisie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une figure très importante. Les réseaux nous sommes dans des communautés choisies. Nous ne mesurons pas à quel point nous sommes dans des communautés choisies, qui se choisissent mutuellement. C'est un grand problème, d'ailleurs, des partis politiques, c'est un grand problème des paroisses, c'est un problème de partout. On se choisit, on est entre gens qui se sont choisis. Et où est la fraternité, là? Donc, on a besoin de la correction mutuelle de ces deux traditions. Mais revenons à l'Évangile avec Jésus qui dit à sa mère, « Mais qui sont mes frères ?» Qui sont mes frères? Et je partirai, pour terminer, sur la parabole du bon samaritain, où il pose la question, mais qui est mon prochain ? On lui pose la question, qui est mon prochain ? Et lui, il retourne la question. Il dit, de qui suis-je le prochain ? Qui a été le prochain de l'homme tombé à terre ? Demande-t-il. Et donc, la fraternité ici, le proche, ce serait de se rendre proche. Il n'y a pas une catégorie sociale qui est mon prochain, qui est mon frère, qui n'est pas mon frère, qui est mon prochain, qui n'est pas mon prochain. C'est se rendre proche. On peut se rendre proche de ce qui est juste là, à côté de nous, et qu'on n'a pas vu, qui est là au coin de la rue, etc., ou à côté, même si je ne le connais pas, c'est des relations immédiates, des relations presque corporelles. Et puis, on peut se rendre proche du lointain, du très lointain, à travers des relations longues, à travers des institutions, à travers des circuits très longs. Et donc, on peut commenter ça en disant que le lien social travaillé par la fraternité n'est jamais assez intime, assez approfondi, et jamais assez vaste, jamais assez élargi. Donc d'un côté, la fraternité va aller chercher le singulier le plus proche, et en même temps, elle va chercher l'universel le plus lointain, à travers des figures qui peuvent être des figures de l'incognito, de l'anonymat, comme dans Matthieu 25, quand Jésus dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » On ne le savait pas, on n'avait pas reconnu. Je voudrais terminer par une dernière figure d'une éthique de la fraternité dans la tragédie grecque. Ce sera court, mais c'est la figure d'Antigone de Sophocle. Antigone, ce n'est pas un frère, bien sûr, c'est une sœur. Donc là, il sera plutôt question de sororité, si vous voulez, par rapport aux frères. Les frères se sont entretués, mais l'un a été enseveli, parce qu'il voilà, il est digne d'être enseveli, et l'autre est un révolté, donc il ne va pas être enseveli. Et elle, la sœur, veut ensevelir le frère auquel on refuse la sépulture. Je me suis parfois amusé à tenter d'imaginer un dialogue entre Antigone et Jésus, parce que Jésus dit « Mais laisse les morts enterrer les morts ». Je ne sais pas ce que Antigone lui aurait répondu. Ça me fait une petite pièce de théâtre là-dessus, ça serait amusant. Mais alors, la figure d'Antigone, c'est vraiment une figure de la résistance à Créon, de la protestation. Hein, elle est là au bord de la cité, elle refuse de se ranger dans l'ordre de la cité, elle dit non, mais il y a un autre ordre que l'ordre de la cité. Elle est ce que une grande spécialiste de la tragédie grecque appelait les voix en deuil, les voix endeuillées. Et donc, la voix d'Antigone, c'est la plainte. La plainte qui couvre les grands discours de justification. Si vous voulez, les hommes, ils sont très forts sur la place publique pour monter en généralité, pour dire la justice, pour dire l'égalité, la liberté, la confrontation. Mais là, on a une femme qui dit le souci de celui qui n'est pas enseveli, qui dit la sollicitude, qui dit le soin, qui dit ce qu'on a appelé le care, si vous voulez, le soin dans ce sens très proche. Et donc là, c'est la fraternité dans le petit, dans le bas, dans le proche. Et je dirais que ces deux figures vont ensemble. Antigone, c'est en même temps une figure de la protestation, de la résistance, et une figure de la fraternité sororale dans le soin le plus qui conteste éventuellement les lois de la cité. Voilà ce que je voulais dire pour une éthique de la fraternité. Merci.